Place au Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pier Paolo Pasolini est mort il y a 50 ans, dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975. À cette occasion paraît le recueil de poèmes inédits en français, transhumané et organisé aux éditions Lanskin et traduit par Florence Pazzotou. Un point sur le Pasolini poète, c'est notre dossier du Point Culture du jour. Hervé Joubert-Laurencin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini. Vous avez notamment écrit la postface de l'ouvrage Transhumané et organisé. Alors, quelle est la place de ce recueil dans l'œuvre poétique de Pasolini, publiée 4 ans avant sa mort? Est-ce qu'on peut le considérer comme un testament a posteriori ou plutôt comme un signe de renouvellement?
Je dirais une rupture. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un testament, parce que d'abord ce n'est pas le dernier recueil de sa vie, mais c'est le dernier entièrement original. Parce qu'ensuite il a repris ses poèmes de jeunesse, ça s'appelle La Nouvelle Jeunesse, et autrefois ça s'appelait La Meilleure Jeunesse, et il a publié en gros tous ses premiers recueils qu'il avait publiés au début des années 50, il les a repris juste avant de mourir, et il a ajouté des pastiches, des retours au frioulant, c'est-à-dire au dialecte, et puis d'autres poèmes nouveaux. Tandis que celui-ci, Transhumané organisé, il est sorti en 1971, donc 4 ans avant sa mort. Et puis bon, même pour les tout dernières œuvres de Pasolini, je crois que c'est ce que je développe un peu dans la postface, même toutes les dernières œuvres, moi je trouve qu'elles ne sont pas testamentaires, parce que Pasolini a été assassiné. Il ne prévoyait pas sa mort. Oui. Il avait énormément de choses en chantier. Donc oui, c'est toujours plus ou moins une renaissance. Ouais.
Et quel type de poésie on peut y trouver dans ce recueil? Parce que c'est assez déroutant, il y a des parenthèses. Et aussi, il faudrait peut-être aussi nous expliquer que ce titre, Transhumané et organisé, ouais, qui lui aussi est relativement déroutant.
Oui, oui, ça paraît très compliqué. Et la solution, c'est de le prendre, comme un chant d'amour déjà, et puis le prendre comme quelque chose de a priori très difficile et en réalité très facile. Enfin, Pasolini disait ça de son théâtre aussi. Hein. Le théâtre le plus difficile, c'est le plus démocratique au fond. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de la poésie. C'est-à-dire que dès qu'on se met à lire un poème, si on entre à l'intérieur, quelque chose se passe et tout devient très limpide. Et sinon, c'est a priori très compliqué dès qu'on reste à l'extérieur. C'est transhumané et organisé, oui. Il faut déjà commencer par là. C'est expliqué dans le livre parce que Florence Pazzotou a fait un énorme travail, non seulement de traduction, que je trouve très réussie, mais d'explications avec des notes. Alors, les notes sont reportées ailleurs, les poèmes peuvent être lus tels quels, mais il y a énormément de notes. Je crois que c'est la première fois en France qu'on a vraiment qu'on peut suivre ce qui se passe, puisque les poèmes de Pasolini sont très liés, enfin, comme toujours avec les poètes, mais encore plus avec Pasolini, sont très liés à des événements ponctuels de sa vie. Si on ne les connaît pas, c'est très embêtant. Mmh. On ne peut pas tout à fait suivre. Donc, ouais, transhumané et organisé. Transhumané, c'est un mot inventé, transhumanar. C'est un mot inventé par Dante, dans le paradis. Voilà, c'est le mot du paradis. C'est la façon d'entrer au paradis, c'est-à-dire de s'élever pour un humain et accéder non pas à la divinité, mais accéder au moins à la vision indirecte de Dieu. Ça, le transhumané, il y a quelque chose de mystique dans transhumané, tandis que organisé, c'est tout à fait l'inverse, parce que c'est un mot de Gramsci, ouais, le fondateur du Parti communiste italien, et aussi celui qu'on appelait le Lénine de l'Occident, qui est très important à nouveau aujourd'hui comme penseur néo-marxiste, enfin, une autre forme de marxisme. Voilà. Et Pasolini lui-même avait un rapport important avec la pensée de Gramsci, même s'il n'était pas ni communiste traditionnel, ni un philosophe. Organisé, c'est l'organisation de la culture, l'organisation du monde, donc c'est l'aspect politique, à l'inverse de l'aspect, non pas religieux, mais sacré ou mystique.
Oui, et justement, quand on pense à Pasolini en France, on pense peut-être d'abord alors à son activité de cinéaste, mais aussi d'analyste acéré de son monde contemporain, mais en tout cas peut-être moins à son activité de poète, et pourtant c'était fondamental, ça on l'a bien dit, et il avait même choisi d'écrire ses premiers poèmes en frioulant, et c'était peut-être même là un premier acte antifasciste, puisque le fascisme considérait l'italien comme seule langue possible. Alors, est-ce qu'on peut dire que la poésie était ce qui lui importait le plus, déjà, et qu'au fond, même sa pensée politique se construisait à partir de la poésie ?
Oui, bien sûr. Oui, oui. On peut penser que, enfin, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a un noyau fondamental dans l'œuvre de Pasolini, mais aussi dans sa vie, qui est la poésie. Et justement, la poésie, comme le disait un de ses amis poètes, c'était aussi une espèce d'unité super poétique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la vie qui est de l'ordre de la poésie, il y a quelque chose dans le cinéma qui est de l'ordre de la poésie. Donc la poésie, d'une part, est une chose parfaitement technique, et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que pour un lecteur aussi, il faut entrer dans le poème, essayer de le suivre, essayer d'être bercé par les phrases. Et ça, c'est très technique, mais il y a aussi une chose fondamentale, quoi. C'est-à-dire qu'on vit en poésie ou pas. Et oui, Pasolini vivait en poésie, oui. Mmh. Et c'est un, je sais pas, je disais tout à l'heure que c'était un chant d'amour, mais voilà, c'est des parmi les plus grandes déclarations d'amour d'un homme pour un homme, par exemple, à l'intérieur de ce volume. C'est un peu comme Sappho, si vous voulez, c'est un Sappho masculin, quoi. Et puis, il y a des déclarations d'amour à Maria Callas, qui là aussi sont des déclarations, sont parmi les plus hautes, à mon avis, dans la poésie d'amour, de ce qu'on appelle l'amour chaste, quoi. Il y a une déclaration magnifique et qui ne disent jamais le mot d'amour. C'est ça qui est très nouveau, très extraordinaire. C'est toujours affetto, c'est-à-dire affection, hein. Affection, affect, voilà.
Et pourtant, Pasolini se qualifiait aussi de poète bouffon, et il disait avoir aussi cessé de s'illusionner sur la poésie. Alors,
oui.
Après tout ce qu'on vient de dire, c'est assez contradictoire. De quelle illusion il parlait, en fait, oui.
Mais non, c'est pas contradictoire, parce qu'au fond, tous les poètes passent par là, un jour ou l'autre. Et donc, c'est pas du tout une destruction de la poésie, c'est une façon de miner de l'intérieur des formes trop académisées et les reprendre et recommencer encore une fois. C'est l'éternel retour de la réinvention poétique. C'est ce qu'on retrouve dans tous les grands poètes modernes et anciens. Et donc, cette idée de bouffonnerie, alors il y a quelque chose de nouveau chez Pasolini, pour Pasolini, que lui n'avait pas de la même façon avant dans sa poésie, mais qu'il avait dans son cinéma, par exemple, c'est l'humour.
Oui, il y a
une relation humoristique au monde, si on veut, grotesque aussi parfois, qui joue avec la destruction. Et de fait, oui, les poèmes ne sont pas des poèmes réguliers. D'ailleurs, il n'a pas toujours fait des poèmes réguliers. Hein. Il a très vite cassé la forme traditionnelle pour jouer avec ça. Et là, on est à plein là-dedans.
Oui, alors donc plusieurs thèmes se chevauchent dans cet ouvrage et on retrouve notamment à la fois donc sa conviction politique ancrée à gauche, son sens du sacré, mais aussi sa position toujours anticléricale. Et comment se construit pour Pasolini ce sens du sacré? Est-ce qu'il s'agissait de quelque chose de l'ordre du paganisme? Comment il l'exprime dans ces poèmes-là en particulier pour vous?
Alors, Pasolini n'est pas un païen. Hein. D'ailleurs, l'extrême droite qui essaye de récupérer Pasolini, comme tout le monde, a beaucoup de mal avec ça. Non, c'est pas du tout un païen. Le sens du sacré, pour lui, n'a aucun rapport avec l'Église instituée. Donc, il n'y a pas, au fond, il n'y a pas de problème fondamental entre comprendre quelque chose de l'ordre du mysticisme et du sens du sacré et être, comme vous l'avez dit, anticlérical. Bon, c'est un mot un peu trop français pour Pasolini, mais anticlérical, on le ressent parce qu'il y a des attaques envers les papes parfois, hein, où il y a au moins deux poèmes, dont un très très long qui se trouve au début de Transhumanée et Organisée, qui s'en prend au Vatican, hein, là en l'occurrence au pape qui a cédé à l'antisémitisme devant les nazis au moment de l'occupation, de la relation entre le moment fasciste et le moment nazi italien. Et donc, oui, il y a un anticléricalisme, une forme d'anarchisme aussi chez Pasolini, en quelque sorte, qui côtoie sans difficulté quelque chose qu'il affirme comme un sens non religieux du sacré, oui. C'est peut-être une des leçons de ce titre étrange, et quand on s'y habitue, assez génial, qui est transhumané et organisé.
Merci beaucoup Hervé Joubert-Laurencin.
Merci.